9h dans le bureau de Par Jupiter.
Salut les copains, désolé pour mon retard.
Hein. Salut Juliette.
Bah t'as bien un gros sac aujourd'hui.
Ouais, c'est l'intégrale de Proust ou t'as un apéro de prévu?
Non, mais tu vas être contente Charline, j'ai apporté de quoi nourrir l'émission.
Ah. Quelque chose en rapport avec le film Le Loup et le Lion?
Ah, un lion, ça serait classe.
Eh ben presque, j'ai apporté ma chatte.
Quoi?
Non, mais, attends, non mais t'es pas sérieuse là, c'est interdit les animaux dans les bureaux.
Ah non, mais c'est pour ça que je l'ai caché dans mon gros sac. Et la voilà, Kiki. Voici Charline et Guillaume. Les copains, voilà Kiki.
Ta chatte s'appelle Kiki. Non mais attends, excuse-moi.
Mais enfin, mais Juju, mais qu'est-ce qu'on va faire toute la journée avec Kiki, nous?
Eh ben, dans le film Le Loup et le Lion, ils deviennent frères de sang. Vous pouvez vous occuper de ma chatte une journée, non?
Là, vous avez vu pour l'instant, je tiens pas de vanne, mais alors...
Attends, mais imagine que tout le monde fasse comme toi, Juliette. L'enfer que ça deviendrait.
Ah non, mais au contraire. Ma chatte, c'est mon support émotionnel, j'y ai droit.
Je résiste, mais j'espère que vous appréciez l'effort.
Attends, mais support émotionnel, c'est-à-dire?
Eh bien, elle m'aide à vaincre mon stress et mon anxiété.
Mais oui, mais si ça m'angoisse, moi! Non, elle va faire ce bruit toute la journée, là?
Non! Une chatte a juste besoin d'un peu d'attention.
Non, j'en peux plus, je vais la faire, la belle.
Bon, mais prends sur toi, Guillaume. Hein. Tiens, et puis d'ailleurs, prends-la dans tes bras, voilà.
Tu vois? Elle ronronne.
Oh là, ouais, elle est douce, hein.
T'as craqué, là, t'as fait une vanne.
Non, même pas. Je te jure, je me sens apaisé, sens supporté émotionnellement.
Voilà, maintenant, essaye, caresse-la.
Ouais.
Ok. Voilà, attends! Regarde ton support émotionnel, il vient de me griffer!
Bonjour la France Inter et bienvenue dans l'atelier de transformation de votre redevance. Donc voici la devise, on n'est jamais aussi bien trahi que par son ex-premier ministre qui crée un parti. Voici le sommaire, le prix Nobel de la paix a été attribué pour la première fois de son histoire à des journalistes, Maria Ressa, Dmitri Muratov. Et ça veut dire que ça sent pas très très bon pour le journalisme et que la liberté d'informer est en danger, qu'il faut la défendre.
Jean-Claude Narcy, faites place, ténor du journalisme. J'arrive.
La règle indiscutable de toutes les interactions entre êtres vivants, c'est le consentement. Toutes, y compris celles avec les chiens. C'est marrant comme le concept de consentement continue à poser des difficultés. Et pas franchement d'ordre orthographique, les difficultés.
Consentement tacite, mec, ouais.
Ouais, c'est tellement tacite qu'en fait, elle s'en doute pas une seconde.
Une actrice et un réalisateur russe ont été envoyés dans l'espace pour tourner un film. Ils sont installés dans la station internationale pour ramener le premier film de l'espace.
Je m'en fous. Vous n'avez pas le droit. Ce qui fait la grandeur de pays, c'est l'espace.
Et à mes côtés aujourd'hui, Juliette Arnaud.
Et en l'honneur de notre invité, de son chien et de son loup, j'ai réuni une équipe de grands prédateurs. Avec d'abord le super prédateur préféré des enfants et le mien, l'ours. Que du muscle et de la grâce. Et pour autant, la grosse bête ne se nourrit que de baies et de musique. Oui, c'est de vous dont je cause, Chewbacca.
N'arrête pas de me comparer à un ours, c'est qu'un truc. Donc, c'est vrai en plus. Aujourd'hui, on va parler des couinatiques, ça va vous plaire.
Cool, je me réjouis. Ensuite, attention, le moustique. Ne riez pas.
Ah non,
s'il n'est peut-être pas tout en haut de la chaîne alimentaire, en revanche, au prorata de nombre de gens qui l'enquiquinent, attention, la puissance de frappe. Bonjour Guillaume Meurice.
Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler d'un événement qui nous concerne aujourd'hui. Ça s'appelle les constellations de la connerie. Voilà, ça c'est fait pour nous. J'ai appelé l'organisateur.
Je crois pas que le vaccin contre les conneries est prêt quand même.
La recherche n'avance pas vite là.
Enfin, le tigre, celui des prédateurs félins qui...
Lui, c'est classe.
Ouais, ça dépend pour qui. Celui qui a une petite particularité rigolote et qui fait son charme piquant dans la catégorie gros chat, il raffole de la chair humaine. Hello, Wally.
Salut. Moi, je vais vous parler de ce dont on ne parle pas. Et puis, je vais crier un peu, de temps en temps.
Yeah. Et voici celui qui va observer ses comportements sauvages. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
Gilles Demestre. Et attention, les moustiques sont plus dangereux.
France Inter. Charline Vanhoenacker, Juliette Arnaud.
Par Jupiter.
Bienvenue Gilles Demestre.
Merci.
Vous êtes documentaliste, réalisateur, journaliste aussi multiprimé, dont un prix Albert Londres. Et vous nous présentez un film qui sort sur les grands écrans, mercredi, qui s'intitule « Le loup et le lion », que vous avez réalisé. Il s'agit d'Alma, une jeune pianiste qui, à la mort de son grand-père, revient dans la maison de son enfance, sur une île au Canada. La maison est isolée et très vite, il y a un louveteau et un lionceau qui se réfugient dans la maison. C'est un film familial, c'est une fable. Et Juliette a vérifié, même dans ses fables, La Fontaine n'a jamais réuni
en face à face
ces deux animaux, le loup et le lion. Alors, Gilles de Maistre, c'est sans doute le point de départ du film, c'est que c'est pas très très bon signe qu'un loup et un lion se rencontrent.
Oui, généralement, ça veut dire qu'il y en a un qui a fait un mauvais voyage, et là, en l'occurrence, c'est le lionceau qui a été arraché à la nature en Afrique. Sa maman a été tuée par un chasseur, et il est envoyé dans un cirque au Canada, sauf que sur ce parcours, il tombe évidemment sur Alma, qui le recueille, parce que son avion s'écrase. Voilà, c'est le début de cette aventure. Il y a aussi un petit louveteau qui, lui, dont la maman est poursuivie par un scientifique qui veut récupérer ses loups pour les remettre après dans la nature. Bon, une espèce de truc un peu absurde. Et voilà, et donc ces deux petits animaux se retrouvent là, ils lui tombent dessus, elle décide de s'en occuper, de les protéger, et c'est le début de notre aventure, évidemment.
Un voilà. Lion au Canada, question d'intégration, d'assimilation. Attention, un voile derrière vous.
Juliette. Vous avez un grand-oncle qui s'appelait René Clément et qui a fait un film en 1952 qui s'appelle Jeux interdits, qui unit les deux enfants dans Jeux interdits. C'est leur petit cimetière caché où ils enterrent les bêtes. Une sorte de sanctuaire dans un monde en guerre, puisque ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que c'est une chose que vous aviez en tête pour écrire Le Loup et le Lion?
Alors pas du tout. Alors c'est marrant que vous parliez de René Clément, parce que non, j'avais pas pensé du tout à ce film-là. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de liens, évidemment, dans la carrière de René et ce que moi je fais plus modestement que lui, évidemment. J'étais beaucoup sur ses plateaux de tournage. J'ai été sur le plateau de Paris Brutil, par exemple. Je m'en souviens. J'étais tout petit, mais ça m'a marqué. J'ai vu Faye Dunaway dans un de ses autres films. Enfin bon, voilà, ça a bercé mon enfance et probablement que ça a connecté pour aujourd'hui faire des films. Mais j'essaie de faire des films qui s'adressent à un grand public familial pour toucher avec des problématiques effectivement.
Mais ce que faisait aussi René Clément d'ailleurs.
Oui aussi voilà, c'est-à-dire un loup un lion. Comment ça va s'intégrer, voilà. On peut en parler aussi avec plus de gaieté, de distraction, d'émotion, et montrer que ça marche en vrai, quoi, puisqu'on a fait en vrai.
Alors bon, il y a des acteurs, il y a notamment Molly Coons ou Graham Greene bien sûr, et puis il y a ces lions et ces loups à différents âges, on va dire. C'est un plaidoyer pour le monde sauvage, votre film, mais alors évidemment en tant que spectateur, on se demande tout de suite, mais ces animaux, ils ont été engagés comme acteurs, il y a sans doute une CGT lion, une CGT loup avec des horaires de travail. Comment vous vous êtes arrangé avec l'éthique, d'où viennent-ils pour rester cohérent avec votre propos?
Oui, alors on a beaucoup de critères pour faire ces films avec ces animaux. Je pense que le plus essentiel, c'est de n'utiliser des animaux que pour défendre, des animaux sauvages, que pour défendre les choses dont ils sont victimes. Donc on les utilise pas pour faire rigoler, etc. C'est vraiment, le loup et le lion sont vraiment en danger d'extinction, et donc ils participent à ces films-là pour parler de ça. Évidemment, on leur demande pas leur consentement, je pense qu'on en parlera plus tard, mais mais on imagine quand même que finalement ils seraient d'accord d'être ce genre d'ambassadeur. Après, effectivement, on n'arrache jamais d'animaux à la faune sauvage. Ces animaux viennent d'élevage. Ils sont a priori destinés plutôt à des trucs horribles dans le futur, plutôt que
vous avez extrait d'un trafic, par exemple.
Alors, au pire, les trafics et la chasse, au mieux, un zoo, entre les deux, un cirque, où ils vont vivre dans des petites cages. Donc, nous, on les prend de là, effectivement, on fait le film, et après, on les met dans des endroits où ils sont protégés, où ils seront jamais exploités, et ils restent tous les deux ensemble, puisque vous avez dit plusieurs, mais là, c'est un loup et un lion, c'est toujours le même dans le film. En fait, on a tourné pendant 2 ans, donc ils ont vraiment grandi ensemble.
Et il y a une belle histoire, voilà. C'est-à-dire, vous pourriez même faire un documentaire sur la belle histoire qui est advenue pendant ce tournage entre ce loup et ce lion.
Bah, ils sont devenus tellement inséparables, ils se sont tellement aimés, en fait, c'est ça qui est fou, qu'on avait prévu de les séparer à la fin du tournage. Le lion partait en Afrique du Sud, qu'il allait découvrir, parce que c'était un lion du Canada. Et puis, devant cette relation incroyable, on s'est dit, on peut pas les séparer, ils vont être plus malheureux de se séparer que de partir pour le lion de partir en Afrique, et donc on les a gardés ensemble.
Et donc, par amour, je vais être extrêmement sentimentale, mais par amour, le lion s'est adapté et il s'est fait une peau et une fourrure pour pouvoir résister à la froidure du Canada.
Oui, il mange du sirop d'érable aussi.
Et des pancakes.
Non, mais alors, bon, c'est un lion qui est né au Canada. Évidemment, il y a beaucoup d'animaux sauvages qui naissent dans nos pays, malheureusement, puisque c'est les fruits de ces élevages. Et donc, l'année où on a cherché le lionceau pour tourner dans le film, il y avait 35 lions qui étaient nés au Canada. Donc, c'est vous dire l'ampleur. De toute façon, le trafic des animaux représente le quatrième trafic le plus lucratif au monde. monde. Donc,
grand remplacement des caribous.
Voilà.
Mais ça nourrit le trafic de drogue, ça nourrit le terrorisme, ça nourrit plein de choses. Donc c'est le sujet de mon prochain film, d'ailleurs.
Voilà, alors ça s'appelle donc « Le loup et le lion », réalisé par Gilles Demestre, scénario Prune Demestre.
Ma femme.
Il y a aussi un livre qui est sorti aux éditions Cherche Midi, un carnet de route et autres histoires extraordinaires à propos du tournage et toutes ces questions qu'on vous soumet. Il y a notamment les réponses dans ce livre sur la relation entre les deux animaux. Tear Your Playhouse Down, c'est Anne Peebles sur France Inter avec une programmation musicale de...
Djoubaka, qui est là.
Ah oui, Djoubaka.
Parce qu'il est là.
Oui.
Oui, sinon quand il est pas là, on le dit pas.
Non.
Notre invité, le réalisateur Gilles Demestre pour son film qui sort mercredi sur les écrans Le Loup et le Lion. Et également dans
Des belles
studio.
Bêtes, hein, Djoubaka, Walidia et puis une taupe. Guillaume Meurice.
Une taupe moustique, bordel.
Fais-toi respecter.
Guillaume Meurice qui a donc co-rédigé ce journal, le journal du Politburo peut-être.
Horizon. Pourquoi Horizon? Parce qu'il faut, pour faire bien, voir loin.
Le journal de presque 17h17.
Non, là, si je vois rien du tout, hein.
Et on commence par les titres.
Dans ce journal, on parlera du nouveau parti d'Édouard Philippe.
Cette espèce au pelage noir et blanc peut se montrer très agressive.
Guillaume, qu'est-ce qui vous prend?
Ah, pardon, j'ai confondu avec un panda.
Ah, d'accord.
Excusez-moi, pardon.
Alors, on parlera aussi du Parti communiste.
Le dernier de son espèce s'est éteint en mars 2018. Il s'agissait de l'unique survivant de ce type.
Mais attends, ils n'ont pas disparu, il reste des communistes quand même.
Ah non, pardon, j'ai confondu avec les rhinocéros blancs.
D'accord.
Pardon,
et enfin, on parlera des journalistes de CNews.
Quand il est énervé, il rabat ses oreilles, fait claquer sa langue et crache sur tout ce qui passe devant lui.
Ah bah là ça marche.
Ah oui, là ça marche. Et on commence par la politique.
Oui, Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste français, estime que les personnes condamnées pour incitation à la haine raciale devraient être inéligibles.
Attends, qui ça?
Ben Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste.
Non, mais parlez de trucs que les gens connaissent, sinon on va perdre des auditeurs, Charline.
Okay.
Vraiment, alors, concentrez-vous là-dessus. Vraiment.
Alors, dans le même temps, le parti situé à la gauche de la majorité présidentielle, Territoire de Progrès, désigné son... Ben quand même, ils ont désigné le nouveau président en la personne d'Olivier Dussopt.
On va finir avec les audiences d'Europe 1, Charline. À ce rythme-là, vraiment. Non, mais faites un effort là-dessus.
Non, vous avez raison. Voilà. D'ailleurs, de toute façon, ce week-end, il a été très politique, puisqu'Edouard Philippe a lancé son nouveau parti politique, Horizon.
Ah là, voilà. Horizon. Alors, Horizon, c'est bien le truc qu'on essaye d'atteindre et qui s'éloigne quand on s'approche.
C'est ça.
Voilà. C'est une belle métaphore de ses chances au présidentiel.
Alors, on enchaîne. Écologie. Pour Barbara Pompili, d'ici à 15 ans, l'énergie renouvelable est la seule solution.
Waouh. Waouh, waouh. Elle a ajouté qu'elle voudrait supprimer le plastique d'ici 2900 ans.
Oui, et protéger les forêts d'ici 10 000 ans.
Waouh. Elle s'engage, Barbara. Bravo. En plus, son inutilité est complètement compostable. Donc, chapeau. Bravo, Barbara.
Environnement toujours. Certains fruits et légumes seront vendus sans plastique à partir de 2022.
Ah oui, mais rassurez-vous, vous trouverez toujours du plastique dans les poissons. Oui. Petite astuce.
Sur CNews, dimanche, Agnès Buzyn. Vous rappelez Agnès Buzyn?
Agnès Buzyn, oui, d'accord.
Elle était interrogée sur sa gestion de la crise Covid et elle a déclaré « Je ne regrette aucune décision ».
Ouh là 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 là, les journalistes ont dû lui rentrer dedans avec des arguments et des preuves qu'elle ment.
Ah ouh là là, Guillaume, faites attention.
Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi?
Bah, vous avez dit le mot journaliste alors qu'on parle de CNews.
Oh pardon, ah, oui, oh, pardon mais... la boulette. Oui, 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 oui. C'est non, moi qui suis pas concentré.
L'humour, oui, mais il ne faut pas propager des fausses infos.
On enchaîne alors. Justice.
Allez, un jeune homme de 19 ans a écopé d'une amende pour avoir utilisé le pass sanitaire d'Emmanuel Macron pour rentrer dans un hôpital.
En même temps, Emmanuel Macron qui rend visite à un service public, le vigile a trouvé ça suspect, là. Ça les rend pas malin.
Et puis des scientifiques viennent d'inventer une peau caméléon capable de se fondre dans n'importe quel décor.
Non, ça existait déjà depuis un bon bout de temps, Charline.
Ah bon, comment ça?
Ça fait 15 ans qu'on reberger la porte. Hein.
En effet.
C'est très efficace. Selon une étude, 84% des Parisiens trouvent la capitale sale.
Oui, ce sont des experts de la saleté qui le disent, car ce sont des Français.
Oh là là. Je me trompe, il y a encore un petit peu de seum en vous, là, Charline.
Sport hier soir. La France a remporté la Ligue des Nations face à l'Espagne, tandis que la Belgique s'est inclinée face à l'Italie en match pour la troisième place.
Pourquoi vous vous infligez ça, Charline?
Je traite le mal par le mal. C'est un médecin spécialiste du Somme qui m'a conseillé ça.
Science à présent.
C'est par homéopathie. L'armée américaine développe un bonnet de nuit qui nettoie le cerveau.
Ah, un truc qui lave le cerveau pendant la nuit, ça s'appelle les rediffs de nuit sur Sud Radio. Ouais. Ça existait déjà aussi.
Bande dessinée maintenant, le prochain album d'Astérix verra l'arrivée d'un nouveau personnage, Terraconus, inspiré par Michel Houellebecq.
Pourquoi pas? Moi, j'aurais plutôt nommé les Arabes, c'est tous des détritus, c'est des terroristus. Mais pourquoi pas? Y a pas de problème.
Et enfin, en musique, deux albums de reprises de chansons de Jean-Jacques Goldman sont prévus en 2022, ainsi qu'une tournée en 2023 intitulée L'héritage Goldman.
Ouais, on se souviendra longtemps de Jean-Jacques Goldman, paix à son âme.
Hein? Mais il est pas mort, Guillaume.
Ah, il est pas, ah, autant bah pour moi. Mais, ah, mais héritage non. Goldman, je pensais qu'il était mort. Elle est au courant, Laetitia Hallyday?
Merci Guillaume Meurice. Gilles Demestre, en notre compagnie, réalisateur et journaliste toujours, bien sûr. Depuis 120 ans qu'il existe, le prix Nobel de la paix n'avait encore jamais été attribué à un journaliste. Cette année, il est attribué à deux journalistes. C'est dire si cette année, ça sent le sapin pour la liberté d'informer. La presse indépendante reste le meilleur surveillant démocratique quand elle est bien faite. Attention, petit tuto.
Et si on faisait un journal?
Hein?
Allez, oui, je vais t'apprendre le journalisme. Tu vas voir, c'est facile. Tiens, on va commencer par un déraillement. C'est bon, ça. Un train déraille quelque part. Alors, moi, je suis le rédacteur en chef. Et je t'appelle dans mon bureau. Vas-y, entre. Salut, Coco. Je t'appelle Coco parce que tout le monde s'appelle Coco dans le journalisme. Bon, il y a eu un grave accident de chemin de fer aux États-Unis, Coco. Tu te mets sur le coup.
Pas aux États-Unis.
Pourquoi?
Papa dit toujours que pour intéresser les lecteurs, il faut des morts français.
Tu n'y connais rien, c'est moi le rédacteur en chef.
Bon, je t'écoute.
Bien, il faut un titre. Je propose grave catastrophe ferroviaire près de Lyon, 80 victimes. Ça te convient, Lyon?
Je n'aime pas catastrophe ferroviaire. Le rapide Paris-Lyon déraille, 80 morts. Voilà un titre.
Tu sais, je suis journaliste professionnel depuis 15 ans, je pense avoir le sens du titre.
Si tu avais vraiment le sens du titre, tu serais rédacteur en chef à ma place, Coco.
C'est Pierre Richard et le petit Fabrice Gréco, tellement prometteur, mais c'est son seul film. Dans Le Jouet, le film de Francis Weber. Alors, il s'agit de Maria Ressa pour une plateforme numérique qui s'intitule Rappeleur, qui a enquêté notamment sur la campagne antidrogue meurtrière du président philippin Duterte. Et Dmitri Mouratov, qui est le cofondateur de Novaya Gazeta, journal indépendant russe, dont faisait partie Anna Politkovskaya. Alors, Gilles Demestre, vous avez été journaliste, vous avez connu des terrains de guerre, vous avez travaillé notamment pour l'agence Kappa, vous avez ramené des films, etc. Comment vous, à votre niveau, vous interprétez le message envoyé par le comité Nobel, prix Nobel de la paix pour deux journalistes et ces deux-là?
Je pense, moi j'ai quand même déjà une réaction très émotionnelle parce que le courage de ces gens qui risquent leur vie chaque jour. Je pense que les gens qui écoutent aujourd'hui se rendent pas compte du courage qu'il faut pour affronter des dictatures, des tueurs, des mafias. Et donc moi ça me réjouit de voir qu'ils sont protégés peut-être par au moins cela par ce Nobel. Après que ça ait lieu aujourd'hui face à la désinformation totale qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, pour s'en faire évidemment de démagogie, mais je veux dire c'est quand même un peu n'importe quoi.
Pas que sur les réseaux sociaux, hein. Il y a certaines chaînes d'information.
Oui, je pense qu'il y a une telle montée de ça aujourd'hui que d'avoir des vrais journalistes, disons, qui se confrontent à un monde très dur et qui osent l'affronter tout petit. On parlait de La Fontaine tout à l'heure, c'est le Chanel Roseau, quoi. Hein, ah, donc, ouais. Moi, je trouve que c'est superbe.
Vous avez déjà mis votre vie en danger pour ramener une information, éclairer une vérité?
Oui, enfin c'est ridicule de dire ça, mais oui, quand on va sur le terrain, je pense que Guillaume aussi risque sa vie quand il va dans le 7e arrondissement avec son micro.
Le meeting de Philippot.
J'ai
fait un coup de sac à main est très vite arrivé. Attention. Oui.
J'ai couru quelques guerres et guérillas, etc. Donc bon, on est là, mais. Quand on filme des gens, ils sont toujours devant eux, et puis ils sont là tout le temps. Mmh. Nous, on vient, on passe 15 jours, 3 semaines, on se dit qu'est-ce qu'on fout là, et puis on repart avec nos images. Mais
oui. Là, c'est l'avantage, c'est que vous pouvez quitter le pays, vous venez, vous prenez les précautions, et ensuite vous rentrez. Donc c'est ça qui vous met à l'abri.
C'est aussi vouloir témoigner, aider ces gens. C'est souvent des gouttes d'eau dans l'océan. Mmh. Mais si on est des millions de gouttes d'eau à travailler, on va faire une grande vague.
Et de journaliste, vous êtes parti vers la réalisation de fiction. C'est pourquoi vous nous présentez aujourd'hui Le Loup et le Lion, par exemple. Est-ce que la fiction, c'est une manière de réinventer le journalisme? Et il en aurait besoin.
C'est-à-dire que on me dit souvent pourquoi tu fais des films animaliers ou des films pour enfants, des choses comme ça. Et avec Prune, donc qui écrit les scénarios, on raisonne pas comme ça. Nous, on raisonne plutôt sur les messages. Et à partir du message, on se dit bon, à qui on peut passer ce message qui aurait pas forcément l'information. C'est sûr que on s'adresse pas aux lecteurs de Libé ou des gens qui font des thèses à la Sorbonne. On essaie de d'éveiller modestement un grand public à des problématiques qui sont fondamentales, comme la protection de la nature, de la faune. Enfin, il va de notre survie, mais sans asséner des vérités, sans être trop moralisateur, juste avec des films qui vont aussi, avec les personnages et la fibre émotionnelle.
Ouais. L'essence du métier, ça reste messager, alors, si je vous en comprends bien.
Exactement, pas militant, messager. Oui, on.
Eh bien, Gilles Demestre, je vous présente le ménager de la musique.
Ah, c'est moi.
C'est Djoubaka. C'est oui, c'est une petite transition, c'est pour dire « Hop, c'est à vous !» Je peux le dire comme ça aussi, si vous préférez.
Oh, si vous voulez. Vous savez, je me demande souvent, quand je regarde un film, quel aurait été le meilleur choix possible en matière de musique. Et à vrai dire, ça m'arrive de penser que les mecs se sont quand même pris les panards dans les disques et qu'ils ont mis les meilleurs sous le tapis. Alors quand c'est comme ça, je me fais ma petite sélection. Je chante tout seul dans ma tête. Mes voisins, ils aiment pas trop quand on regarde un film à plusieurs. Mais bon, voilà. Moi, je trouve que je suis un spectateur pratique parce que j'ai toujours content à la fin. Alors, quand j'ai découvert le groupe Kounatik, j'ai pas eu de doute. J'avais dans les oreilles les meilleures mélodies possibles pour un film de science-fiction. Pas un truc de vaisseau qui se chamaille, mais plutôt l'idée d'une planète en pleine évolution, de l'état gazeux à une civilisation. Alors, Kounatik, c'est un trio féminin basé à Tokyo et elles ont le cervelet quand même qui marche à 100 à l'heure. Elles mélangent des bouts de musique traditionnelle nippone en gardant soit le côté tribal, le côté un peu percussif, et puis plus éthéré, des airs de flûte, et elle pousse le bouchon, parce qu'elle pousse, en tendant vers le psychédélisme. Et de temps en temps, leur voix se chevauche comme le forêt des prophétesses. Alors plutôt que de s'inquiéter comme ça, comme nous, uniquement de l'évolution de notre planète, les Kounatiks ont décidé d'en recréer une de planète, et de raconter son histoire, donc le peuple de la Terre, mes amis, cette table, nous ne sommes plus seuls. Et si on regarde très très loin dans le ciel, on peut, avec un poil de fantaisie, voir apparaître Kourandia. Kourandia, c'est la planète. Bon, vous avez compris, c'est pas des rigolotes, nos copines. C'est des créatrices d'univers, de forêts, de villes. C'est des faiseuses aussi d'accidents climatiques. Bref, on débarque dans un concept album. 9 titres, 9 histoires. Et nos oreilles veulent se connecter à un monde comme ça qui s'éveille à la vie. Alors tout commence comme ça par des sons percussifs, tribaux, des cloches lancinantes. Il paraît qu'elles sont sacrées les cloches. Et qu'elles annoncent une ère nouvelle. Et puis il fallait une reine, alors une guide surnaturelle. Elle arrive aussi. Elle va régenter, organiser ce nouveau monde. Alors, on ne sait pas trop quelle tête elle a, la cheftaine, mais elle a l'air de savoir très très bien comment ça se passe, une planète. Parce que très vite, les Curandiens, c'est le nom des habitants de la planète dont je vous parle, se rassemblent pour faire une très grosse fête, éclairée pendant des nuits par leur astre lunaire. Et pendant longtemps, tout va bien. On mange, on boit, on construit, et soudain, inattendu, pointe le bout de son nez. Il y a un volcan qui émerge comme ça au milieu, comme un champignon au milieu des montagnes. Alors notre groupe Tokyoïde se met à crier des mantras pour empêcher son éruption. Et là, on est presque à la fin du disque, plage 6 ou 7, je sais plus. Et paf, il y a un rebondissement. Et voici un nouveau coup d'éclat dans ce récit. Jusqu'ici, les Curandiens, ils vivaient sur une jolie planète. Et mis à part ce volcan capricieux, ils étaient bien heureux, les Curandiens. Et là, il n'y a pas moyen d'être tranquille, parce que voici qu'apparaît, tout droit sorti des fumerolles du volcan, des envahisseurs. Le grand remplacement, c'est pas pour tout de suite. Ça, je vous le dis, parce que c'était mal connaître les Kunatiques. Les Kunatiques, c'est notre groupe de Tokyo. Grâce à leur chant mystique et magique, elles font fuir ces bourdons de prédateurs de planètes. Et c'est un triomphe. Et enfin, tout le monde se remet gentiment de ses émotions et les Kunatiques, elles emmènent se ressourcer toute cette population dans une forêt profonde et rassurante. Arrivé là, moi, je suis crevé. Crevé.
Est-ce que c'est André Lopiancaco qui écrit cette chronique?
Mais alors, j'ai qu'une envie, en fait, c'est de voir les Kunatiques pour de vrai un jour. Et en attendant, voici le chant des récoltes abondantes et de la joie de vivre.
Bien sûr. Bien sûr. Allez, les petites pilules, et on écoute.
C'était les Kunatiques. Alors là, bon, c'était les récoltes, la joie de vivre, tout bien, quoi, voilà. Le titre, ça peut être ici, ça sera la semaine prochaine.
Merci, Djoubaka, pour ce choix musical. Nous sommes en compagnie de Gilles Demestre. Le film Le Loup et le Lion sort en salle mercredi. L'histoire d'un lionceau et d'un louveteau qui grandissent ensemble. Alors évidemment, il y a des péripéties, il y a une intrigue, etc. Est-ce que, comme ils ont vraiment grandi ensemble, et qu'ils sont toujours ensemble d'ailleurs, ce loup et ce lion qui ont tourné dans le film, est-ce qu'il y a un mimétisme entre l'un et l'autre, le loup a adopté des choses du lion et réciproquement.
C'est vraiment génial parce que ça c'est trop marrant comment ils apprennent l'un de l'autre en fait. Oui, effectivement, bon, par exemple, les lions, ben ça creuse pas des trous, et ben le lion creusait des terriers parce que les louveteaux creusaient des terriers. Donc il a imité. Bon, à l'inverse, le louveteau, lui, il commençait à taper avec sa patte les petites feuilles en l'air comme font les chats, parce que les lions font ça. Voilà, donc
puis mais après, le loup s'est pas mis à rugir et le lion
non,
a fait.
Alors, ça aurait été possible, mais je crois qu'ils n'avaient pas la voix pour. mais c'était pas loin, parce que quand il y en avait un qui tournait sans l'autre, ça pouvait pas arriver. Enfin, il fallait qu'il y ait le loup ou le lion quand l'autre tournait tout seul.
Oh là là,
c'était vraiment
mignon.
Trop mignon.
Comme dans le film, évidemment. Ouais. Gilles Demestre, Juliette. Non, pas Juliette, Guillaume.
Oui.
Concentrez-vous, Juliette, c'est à vous après. En attendant, Guillaume.
Et ouais, je vais vous parler de conneries aujourd'hui. Alors, vous allez me dire, ah, enfin, un sujet que tu maîtrises. C'est pas faux. Je vais vous parler de conneries parce qu'aujourd'hui, à Marseille, débutent les constellations de la connerie. C'est une trentaine d'intervenants. Donc, il y a des philosophes, des sociologues, des chercheurs, des psychologues qui vont débattre de la connerie, qui vont disséquer la connerie. Alors, ça pose plein de questions, évidemment. Déjà, la première, ben, pourquoi on n'y est pas? Pourquoi on n'a pas été invité quand même? On y consacre notre vie, on pratique même, voilà, sur notre temps libre. Surtout qu'il y a un événement consacré à la connerie dans les médias. Ça s'appelle la média connerie. Alors, si vous voulez être complet sur la question, ça va être long. Prévoyez des sandwichs pour 215 ans. Il y a aussi un événement sur la connerie en politique avec comme invité Najat Vallaud-Belkacem, qui connaît bien, puisqu'elle était dans le gouvernement avec Valls et Ségolène Royal. Donc, elle était au cœur de la meule, comme on dit dans le milieu de l'Emmental. Pour en savoir plus, j'ai appelé l'organisateur de l'événement. Il s'appelle Jacques Serrano. Alors, pourquoi ce sujet?
Pour un sujet particulièrement déprimant.
Pourquoi c'est déprimant?
Oh, c'est déprimant. Nous, on peut convenir que la connerie détruit les conditions de la vie sociale, qu'elle pourrit notre existence. Les cons sont des gens nocifs. Ouais. Alors c'est vrai que nous sommes à la fois auteurs et victimes, quoi.
Alors c'est ça qui est bien dans la connerie, c'est qu'on peut être soit auteur, soit victime, et on peut même être les deux. On peut être auteur et victime de sa propre connerie. Par exemple, quand on se dit, tiens, si je m'agrafais les testicules à une table. Voilà, ça peut arriver vers 4h du matin quand on fait une soirée avec les techniciens de France Inter. Ou alors, tiens, si je me présentais à une élection, quand on est, par exemple, François Bayrou. Ouais, bah, on fait les deux, on est victime et auteur, il y a plein d'exemples. Alors comment on reconnaît un con?
Comment on reconnaît un con? Je pense qu'il y a une part de prétention qui fait qu'il pense avoir raison. Voilà. Mais évidemment, il y a plein de définitions que l'on peut trouver du con. Il y a le petit con, il y a le gros con, il y a le sale connard. Bon, ils n'ont pas tous le même niveau, quoi.
Il y a une sorte d'échelle du con. Vous voyez, c'est assez technique. Je vous avais prévu cette technique. D'ailleurs, des fois, le con change d'échelle, tout seul. Par exemple, un automobiliste qui peut être très con. Par exemple, à son volant, il traite de sale merde celui qui est devant lui. Si celui qui descend de la voiture devant, c'était Dirinaire, hop, l'autre, il va devenir moins con. Vous voyez, il y a des changements d'échelle. Voilà. Donc, ça mérite vraiment une semaine de débat, ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y aura des cons en invité?
Ah non, on ne sait pas encore. Peut-être que après on va le découvrir, mais a priori je pense pas.
Ah ouais, est-ce que c'est pas un peu dommage alors de pas avoir invité les?
Oui, parce que où les trouver?
Ah bah moi je peux vous dire quelques noms si vous voulez.
Oui, mais vous savez, faut-il encore qu'ils acceptent?
Gros, ça, bon, y a pas de souci. Non, alors le con adore la lumière, vraiment, il adore. C'est comme le moustique, voilà, c'est pareil. Le con s'est attiré par les projecteurs. C'est très rare un con tout seul dans son coin. Le con aime partager souvent sa connerie. C'est grâce à ça qu'on fait société, comme on dit, et que les ch'tis amicanos cartonnent d'ailleurs, ou les émissions de CNews, ça c'est pas une surprise. CNews sans con, c'est des tabourets et des lumières, quoi. Ah ouais, ça n'a pas trop d'intérêt. D'ailleurs, est-ce que CNews est partenaire de l'événement?
Non, parce que on est en partenariat avec d'autres personnes qu'on aime plus, comme le magazine, Philo Magazine.
Ah oui.
Il y aura une soirée piloté par l'un lotier du magazine Marianne.
Ah, pas mal. Ah, si. Marianne, on peut quand même trouver un petit peu de la connerie. C'est pas mal. Ouais. Marianne, c'est l'extrême droite, mais de gauche. Vous voyez, c'est assez particulier. Ils ont pris le nom du symbole de la République. Bon, c'est comme si une revue Bien-être, Santé, Joie de Vivre s'appelait Welbeck. Vous voyez? Bon. Allez, continuons.
Ce qu'on va mettre en avant aussi, c'est que des gens très, très cultivés, très intelligents, a priori, utilisent des propos cons pour se faire bien voir, quoi.
Oui.
C'est aussi une stratégie, quoi, d'être con aussi.
Alors ça, c'est intéressant, c'est ce qu'on appelle jouer au con. Mm-hmm. Ouais, ça, c'est technique
on
aussi. C'est vrai que, oui,
c'est pas...
parfois, on se dit, on entend un truc, on se dit, c'est pas possible d'être aussi con, ça doit être une stratégie. Regardez Marlène Schiappa. Et ça se trouve, elle est chercheuse au CNRS. À vérifier quand même, à vérifier. Allez, concluons sur cet événement qui aura donc lieu à Marseille, mais alors bizarre, sans le professeur Raoult.
Moi, j'y ai pensé à un moment donné. Je m'étais pas très bien pas parlé à sa place, mais, mais il aurait certainement développé la, la connerie qu'il subit de la part d'autres médecins, de la part du gouvernement, de la part...
Mais est-ce que lui, il n'est pas émetteur de pas mal de conneries ?
Aux yeux de beaucoup de gens, oui, à la fois, à Marseille, c'est une icône. Hein.
Ouais,
c'est ça. On fait des savonnettes, des savons de Marseille avec le professeur Raoult en relief.
Et oui, et les gens l'achètent. Et les gens l'achètent, c'est pour ça que la connerie est formidable et qu'elle perdure parce qu'elle est très très compatible avec le capitalisme, qui est certainement un des systèmes économiques d'ailleurs les plus cons.
Merci Guillaume Meurice. À venir, Walidia, c'est pour vous dire que le lundi est agité. Nous sommes en compagnie du réalisateur Gilles Demestre. Juliette, vous avez un thème à lui soumettre.
La vie en ville, c'est pas toujours la fête. Et parfois, la vue d'un chien dans la rue nous émeut ou nous fait rire, alors on a envie de le caresser. Eh ben, il faut pas. Enfin, si, mais bien. Il faut d'abord demander la permission au chien, et puis au maître, et puis s'accomplir, si vos articulations le permettent. Le regarder dans les yeux, avant de le toucher. C'est tout un rituel nécessaire, instructif, surtout pour les enfants. Dans l'autre sens, c'est pareil. Hein. Ça fait des millénaires que les chiens s'efforcent de répondre à nos besoins et encaissent nos leçons.
Didier... Tu peux pas, quand tu vois quelqu'un, tu peux pas d'entrer comme ça, lui sentir le cul. C'est important, ça, c'est très important. On ne sent pas le cul quand on connaît pas. Bon, bien sûr, on la connaît, elle. Mais il faut connaître plus pour sentir le cul. Elle, c'est la boulangère. Elle vend le pain. Le pain. Bon, oublie. Oublie le pain. C'est pas important, ça. On ne sent pas le cul. Bon, on ne sent pas le cul des filles. Voilà. Sauf si c'est elle qui demande. Si c'est elle qui demande, tu vois, avec elle.
Vous aurez reconnu donc le film Didier, film d'Alain Chabat, avec notamment Jean-Pierre Bacri. Alors, dans cet article de... C'est un article de State, mais qui est très intéressant, parce que moi, je ne l'avais encore jamais lu. Vous, vous faites dans votre film appel à des animaux plus sauvages, hein, comme bêtes. Et c'est pareil, j'imagine qu'il ne faut pas trop se manquer dans les rituels de politesse.
Bah, un lion, vaut mieux lui demander la permission avant de le caresser. Hein.
Voilà. Mais j'ai lu dans une interview que vous avez donnée que vous aviez donné, comme enfin vous et j'imagine le dresseur animalier, des ordres très précis, et dont un qui était « on ne fait pas de caresses aux animaux ».
C'est tout un process, on en parlait au début sur l'éthique, qui est que nous, on est à égalité avec les... Et même, ce sont nos stars, hein, les animaux sur nos films. Donc, sur un tournage, si vous êtes avec Depardieu, les techniciens vont pas tous faire « guili, 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 guili ». Voilà, donc c'est pareil, on les respecte.
Mais lui, il va le faire.
Et donc, il y a un certain nombre de personnes qui travaillent.
Ouais, mauvais exemple, mauvais exemple.
Bon, voilà. Bon, alors, Marion Cotillard.
Voilà, voilà, très bien, très bien.
Donc voilà, donc déjà, ça, c'est la base pour nous. Les animaux, c'est super précieux. Ils doivent être super à l'aise, super confortables, super heureux d'être là, pour qu'ils puissent nous donner ce qu'on a envie d'obtenir d'eux. Donc, toute la règle, c'est effectivement les animaux. Ils n'interagissent que avec certaines personnes qui les connaissent, qui savent quand ils sont de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Quand ça va pas, on tourne pas, on remet au lendemain. Enfin, on est vraiment très dans une dynamique comme ça. On s'adapte aussi à leur caractère, parce qu'effectivement, ils peuvent pas nous dire on n'est pas content, etc. Donc, il faut qu'on le comprenne. On a fait 16 versions du scénario, par exemple, pour adapter le scénario à la réalité des caractères des animaux. Donc c'est tout un process qui est hyper compliqué, c'est pour ça qu'on tourne 2 ans. Voilà, là les animaux grandissent pendant 2 ans à la caméra, et on passe beaucoup de temps à ça. Mais résultat, effectivement, on a des images extraordinaires de ces animaux qui sont heureux, qui vivent ensemble, qui jouent. Voilà, donc au-delà de la blague des chiens, moi je trouve que c'est bien. Et
mais en plus, c'est pas qu'une blague.
Non, mais les gens peuvent peut-être le prendre un peu comme
oui,
un
oui,
truc
mais,
un peu
mais
rigolo.
Mais c'est vrai que ça n'est pas tout à fait, ça n'est mais pas tout à fait une plaisanterie. Et en plus, ça permet au môme d'apprendre 2 choses, si ce n'est 3, l'altérité, qu'on n'est pas, enfin que un chien c'est quand même quelqu'un
c'est
d'autre,
pas un jouet,
et c'est pas un jouet, le consentement et parfois la frustration, c'est-à-dire que le maître est en droit de dire ou le chien en droit de dire non, j'ai pas envie.
Absolument. Ils le disent violemment souvent. Ça d'ailleurs, les animaux, c'est pour ça que ça peut être aussi dangereux d'approcher un chien pour un enfant.
Et dans le film, donc, qui est un film qui est en partie destiné aux enfants d'ailleurs, on voit très peu de scènes qui soient vraiment de ce qu'on aurait envie de faire avec un bébé lion, c'est-à-dire des gros câlins. On voit plus le chien et le lion jouer ensemble que de jouer avec l'actrice.
Oui, c'était aussi ce qu'on avait envie de raconter, c'est-à-dire la rencontre de deux êtres qui devraient se détester, s'entretuer, qui ne devraient pas se comprendre. et de montrer qu'ils peuvent le faire. Donc le cœur du film, c'est quand même ce message-là, même si on le traite évidemment par une allégorie. Mais donc c'était ça qui était important pour nous, c'était de faire cette rencontre. Le côté humain, animaux, la communication, les ambassadeurs, on l'avait fait sur Mia et le lion blanc, qui était mon film précédent, et où c'était une petite fille qui entrait en connexion avec un lion et qui grandissait avec lui pendant 3 ans. Donc ça, c'était quelque chose qu'on avait vraiment montré. Et là, ça nous intéressait de montrer ces deux... Voilà, on peut pas faire plus opposé qu'un loup et un lion, finalement. Et ça peut marcher. Donc une famille, au fond, c'est pas de la génétique, c'est pas du sang, c'est de l'amour. Et c'est ça qu'on voulait prouver.
Mais à cause de vous, ma fille, elle veut un lion, maintenant.
Le loup et le lion, belle métaphore du deuxième tour de l'élection présidentielle à venir. Ce qui m'offre une transition toute trouvée, Gilles Demes, pour accueillir Walidia.
C'est un résumé de mon état d'esprit du moment. Hein, ah, désolé si je vous ai brusqué, mes petits antéchristo-whiskistes satano-compatibles. Ah, mais pour écrire la chronique, j'ai dû suivre l'actu de toute la semaine. Hein. Donc clairement, me faire fouiller l'urètre avec une branche de sapin, ça aurait été plus funky. J'ai essayé de me détendre, comme tout le monde, j'ai regardé la série Squid Games. Hein. Bon, bah, c'est des pauvres qui s'entretuent pendant que des riches les regardent en rigolant. Il n'y a pas moyen de déconnecter de la réalité 2 minutes, en fait. Puis paye ta réalité. En ce moment, on est envahi par les chiffres des sondages qui ont grand remplacé les chiffres du Covid. Parce que visiblement, le Covid, il n'y a plus. Il y a passe, mais Covid, il n'y a plus. Non, c'est fini le taux d'incidence, le pourcentage de saturation de réal, les nouveaux variants, etc. C'est toute une entreprise de fabrication de la peur qui disparaît pour laisser place au frisson de découvrir où se positionnent Yannick Jadot et Xavier Bertrand. Au premier tour, waouh! Xavier Bertrand qui se définit en présidentiable alors que c'est le seul être vivant ayant dépassé le CE1 qui se fait mettre à l'amende par Anne-Sophie Lapix. Hein. Ouais. S'il est élu, il va faire quoi en face de Poutine celui-là? Franchement, il y a moyen qu'il pleure, il va se pointer au Kremlin avec son charisme de culbuto là. Et à la fin du rendez-vous, Vladimir il va augmenter le prix du gaz de 400%, il va demander à Xavier de sortir les poubelles en partant. Et attention, un mec dont le nom c'est deux prénoms peut en cacher un autre. Hein. Après Xavier Bertrand, il y a Édouard Philippe qui revient comme si on avait oublié qu'il avait été premier ministre pendant 3 ans et qui s'est barré juste avant la pandémie. Hein. Il est un peu moins con qu'Agnès Buzyn, mais on retient. Avec un nouveau parti et l'objectif de faire réélire le président. Hein. Pour ce faire, Édouard Philippe a dit qu'il fallait élargir. C'est exactement le mot que j'aurais employé, élargir. Ah, ils nous ont bien élargi pendant 5 ans, mais là, faudrait élargir encore. Là, si on élargit plus, ça va se séparer. Ça va se couper en deux. Là, faut recoudre et laisser cicatriser, s'il vous plaît, messieurs. Hein. D'ailleurs, en parlant de gens qui sont là pour faire réélire Macron, on suit toujours le moindre mouvement de slip de Zemmour. Hein. Quoique, après son déplacement en Corse, là, il est en train de comprendre que la rue, c'est pas aussi confortable que les plateaux de CNews. Hein. Dehors, il n'y a pas que des Christine Kelly. Il crie partout que tous les Français pensent comme lui, mais il lui faut 9 quarts de CRS pour passer d'un trottoir à l'autre, hein, tellement les Français l'aiment bien. Puis il n'est pas candidat, mais dès qu'il passe une tête quelque part, il nous coûte le prix d'un déplacement de président. Donc il faudrait voir quand même. Et depuis la rentrée, les journalistes nous parlent de la surprise Zemmour. Hein, ils vont être surpris jusqu'à quand, en fait. Et eux, tu leur fais boue, ils font ah pendant 2 mois. Et les journalistes, ils se battent là pour passer l'aspirateur sur le tapis rouge qui déballe un raciste qui convoque Pétain et De Gaulle en même temps, alors que les deux se détestaient. Hein, mais Eric, il veut les mettre d'accord pour virer les Arabes. Bon, d'accord. Pendant ce temps-là, on les entend pas, les journalistes, sur le procès d'Alexandre Benalla, par exemple, qui s'en est tiré avec 500 euros d'amende requis par le parquet. Hein, je vous rappelle qu'il y a pas si longtemps, si tu grillais le couvre-feu pour la deuxième fois, c'était 1500 euros. Hein. Élargir, vous vous rappelez? Alors bon, il a pris aussi 18 mois avec sursis. Hein, ça veut dire que pour qu'il entrevoie la prison, faudrait qu'il se fasse réembaucher par le prochain président, qu'il se refasse passer pour un flic, qu'il retabasse des manifestants, et là, il les fait, ces 18 mois. Hein, parce qu'on déconne pas avec la justice non plus. Les journalistes ont rien de neuf sur les Pandora Papers, d'ailleurs. On a toujours pas les noms des 600 Français impliqués. Donc déjà, on est sûr d'une chose, ils sont pas musulmans. Ouais. Sinon, on aurait les noms, les adresses, les antécédents médicaux, les bulletins scolaires. Et dans les 600, il doit y avoir des mafieux, des trafiquants d'armes, des chefs de réseau. Mais cette insécurité-là, ça dérange personne. Hein, vu que ça se passe pas en banlieue, ça compte pas. Hein, y a aussi des élus dans le tas. Ceux qui sont censés lutter contre la fraude fiscale, si c'est aussi ceux qui la commettent, faut pas attendre de miracle. Hein, c'est comme si ceux qui devaient enquêter sur les violences policières, eux aussi, c'était des... Bon, ça va nulle part, cet exemple. Sinon, on n'entend pas grand-chose non plus sur le scandale de l'école Supélec, hein, une école d'ingénieurs où on enregistre plus de 100 agressions sexuelles sur une seule année. Hein, je comprends pas. On nous dit qu'il y a que les migrants qui violaient. Les ingénieurs aussi? Mais je tombe des nus, hein, hein. Puis là, il y a aussi MeToo Théâtre. Quoi? Au théâtre aussi? Mais je tombe des nus! En fait, le seul endroit où les femmes ne se font pas agresser sexuellement, c'est à la morgue. Et encore. Il y en a la rigidité cadavérique, ça les ralentit pas. En termes d'agressions sexuelles, tout ça, c'est bien, mais c'est petit joueur face à l'église, quand même. Quoi? L'église aussi? Mais je tombe des nus! 330 000 victimes en 70 ans. Ça fait 4 714 par an. Ça fait 12 par jour. Ça fait une toutes les 2 heures. Et dans tout ça, on n'a pas un seul nom de coupable. Comme quoi, les miracles, ça existe. Ça fait des siècles que des gens d'église nous expliquent avec qui il faut coucher, à quelle heure et dans quel sens. Et c'est peut-être les mêmes qui protègent une usine à viol. C'est cocasse, hein ! Ah, je crie beaucoup en ce moment. Certains osent expliquer tout ça par le célibat des prêtres. Ouais. Alors que la frustration n'a rien à voir là-dedans. C'est juste que les violeurs d'enfants, ils ont la présence d'esprit de bosser là où il y a des enfants, disons. Hein, t'as remarqué, il y a vachement moins de pédocriminalité à Brico-Dépôt. Hein, c'est vraiment... C'est, enfin, tout ça dans une omerta générale, hein, à l'heure où pourtant on n'a jamais vu autant de micros allumés. Visiblement, certains ont trouvé un vaccin qui les a immunisés contre les lois de la République. Et le séparatisme s'est jamais aussi bien porté.
Walidia, poursuivez cette expérience folle dans son spectacle Ensemble ou rien, car il est en tournée dans toute la France. Ça dure 6 heures sans entrave. Merci Wally. Gilles Demestre, on poursuit car deux civils viennent d'être envoyés dans l'espace et ce ne sont ni des touristes ni les milliardaires. Il s'agit d'une actrice et d'un réalisateur russe invité sur l'ISS pour tourner le premier film dans l'espace. C'est devenu l'auberge espagnole, cette station internationale. C'est ce qu'en France, on pense tout bas du moins.
Monsieur le Premier ministre, nous sommes bien d'accord. Vous et moi, nous voulons maintenir tel quel le budget de la recherche spatiale. Nous voulons que les Français acceptent toujours qu'une partie de leurs impôts serve à préparer le futur.
C'est ça.
Il n'y a qu'une solution, on voit des associés, des impliqués.
Ils vont adorer, je vous dis.
C'est bon, ça, Verburger.
Oui, c'est bon, oui. Ce sera sans moi. Jamais je n'emmènerai le civil dans l'espace, c'est une aberration.
Qu'est-ce qui vous prend, Beaulieu ?
L'espace n'est pas une affaire de marketing.
Allons, Beaulieu.
Je suis désolé, monsieur. Pour les fourmis, nous sommes des géants. Pour l'espace... Nous sommes des fourmis.
Un ticket pour l'espace, film d'Éric Lartigot avec notamment André Dussolier. C'est le sujet que vous avez choisi d'aborder, Gilles Demestre, cette actrice et ce réalisateur russe dans l'espace pour tourner le premier film dans l'espace.
Bah, je trouve que ça dit tellement de choses sur notre monde. Bon, c'est vrai que c'est au cœur de mes préoccupations puisque je fais du cinéma. Donc, donc ça m'intéresse évidemment de me dire que les Russes envoient, vont aller tourner un film dans une station spatiale, que ça doit coûter des centaines de millions. C'est à la fois extraordinaire, à la fois totalement absurde. Je sais pas quelle est l'empreinte carbone de ce tournage, mais
ça fait une petite loge pour l'actrice. Voilà, la loge est toute petite.
Ça nous a enlevé deux ans.
Tout ça parce que les Américains comptaient le faire avec Tom Cruise, qui essaie d'en faire encore plus. Et à la fois, c'est fascinant parce que c'est complètement à l'inverse de ce que je fais. Moi, je fais un peu de l'artisanat avec dans la forêt, avec mon lion, mon loup. Et à la fois, aujourd'hui, on a besoin au cinéma d'offrir aux gens qui vont aller dépenser chacun 10 euros pour rentrer dans une salle quelque chose de spectaculaire. Et il faut, et c'est une surenchère. Et donc tout ça, c'est très contradictoire, c'est très incroyable. Je trouve que c'est source de pas mal de débats, quoi.
En effet. Mais quelle serait l'importance ici du décor réel dans la fiction ? Parce que ça, c'est quelque chose avec lequel vous travaillez beaucoup.
Moi, je pense que ça, en soi, ça n'a pas tellement d'intérêt, parce que je pense qu'on est capable de le recréer. Mm-hmm. Mais l'événementiel aussi joue sur l'aspect commercial qu'aura le film, évidemment. Donc, les gens vont pas y aller pour se dire que les effets spéciaux vont être extraordinaires, mais ils vont y aller parce qu'ils vont se dire, tiens, je vais voir un truc dans la station spatiale, une histoire. Bon, je sais même pas d'ailleurs si ça va marcher. Ça marchera sûrement mieux avec Tom Cruise qu'avec un film russe qui va peut-être pas être terrible. Mais forcément, c'est spectaculaire. Donc il y a effectivement le vernis de la chose qui va attirer. Après, je pense que moi j'ai la même problématique, c'est-à-dire quand je fais un film avec un loup et un lion, moi je choisis de faire ça en vrai, je choisis l'authenticité des images. Mais moi je le fais parce que je sais que il y a forcément une plus-value dans cette relation entre le loup et le lion à l'écran qu'on ne peut pas aujourd'hui truquer. Des gens qui se baladent dans une station spatiale, les Américains avec les trucages, je pense à Gravity ou des films comme ça sont extraordinaires.
Armstrong, tout ça, enfin, tout ça.
Oui. Bon alors, je ne savais pas que j'étais dans une émission complétiste.
Si ça se trouve, ça va être déceptif. On va dire bah c'est nul l'espace. C'est mieux quand c'est truqué au cinéma. Mais voilà. Gilles Demestre, il y a Juliette Arnault qui a un questionnaire à vous soumettre de par Jupiter Proust.
Sur l'échelle qui va de 0 à 10, des acteurs les plus difficiles à diriger, 10 étant Christian Bale.
No! No! I'm gonna fucking kick your fucking ass! You don't shut up for a second, alright?
Voilà, je vais kicker les fesses du chef-op sur le tournage de Terminator. Donc ça, c'est 10. Et 0, c'est une table. À combien évaluez-vous vos acteurs loup et lion?
Ah bah c'est 0 et 10 parce que ça dépend des jours, voilà. Donc c'est ça qui est extraordinaire. On est vraiment dans l'ascenseur émotionnel. Oui, parfois ici ils font ça, ils font des choses en 5 minutes et puis parfois on remet 3 jours de suite la séquence parce qu'ils le font pas.
OK. Dans quel film animalier aimeriez-vous vivre ? L'ours, La Marche de l'Empereur ou Jurassic Park ?
Dans Jurassic Park.
Vivre, on a dit. Ça, c'est mourir.
Dans votre film, le loup s'appelle Mozart. Est-ce que c'est parce que Beethoven s'était déjà pris?
Exactement.
Quel animal de fiction ressemble plus au genre d'humain que vous êtes? Balou qui aime danser, clochard qui aime draguer au resto italien ou Ted qui aime picoler?
Clochard.
Vous avez préféré le loup ou le lion? Ah, maintenant, c'est bon, vous pouvez dire la vérité. Il n'y a aucun des deux qui écoute France Inter.
Ah, peut-être.
Non, je vous jure que pas. Le loup ou le lion?
Bon, j'ai une grosse affinité avec les lions parce que j'ai fait deux films.
Bon, d'accord, donc c'est le loup. Dilemme terrible. À l'avenir, vous ne pouvez plus faire que de la fiction ou que du documentaire, que choisissez-vous?
Bon, aujourd'hui, je choisirais la fiction parce que j'ai fait beaucoup de documentaires pendant 30 ans, donc oui, la fiction.
Ok, c'est bien, j'aime bien les gens qui savent répondre à des dilemmes. Encore un dilemme affreux. À l'avenir, vous ne pouvez plus filmer que des enfants ou que des animaux. Que choisissez-vous?
Les enfants.
Jean-Marie Le Pen, vous a fait un procès qu'il a perdu. Est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien que le prix Albert Londres en termes de gloire?
Bon, oui, Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen. Il faut dire qu'ils étaient tous les deux là. Oui, bah, c'est un souvenir assez fort, quoi, de se retrouver dans le bureau du juge en train de regarder mon film. Il m'avait porté plainte sur un film avec Marine Le Pen, dont elle était à l'écran elle-même, l'actrice qui était Claire Kem. Enfin, c'était complètement fou. On était là dans son bureau avec des scènes très osées à l'époque. Et voilà.
Gilles Demestre qui propose donc son nouveau film Le Loup et le Lion qui sort en salle mercredi avec un scénario de Prune Demestre avec Molly Kuntz ou Graham Greene ou Charlie Carrick notamment. Et puis il y a aussi le livre qui est disponible au Cherche Midi, Le Loup et le Lion, le carnet de route et autres histoires extraordinaires. Merci beaucoup Gilles Demestre. Et merci à vous les amis pour cette jolie heure passée ensemble. Je vous dis à demain, nous recevrons Gérard Lenormand pour une balade avec des gens heureux.
Ah, le bonheur, mais t'as plus que ce mot-là à la bouche. Alors ça me saoule, ok? Ras le cul, le bonheur.